Bonjour Christian Olivier, merci de nous accorder de votre temps pour cette interview. Le 22 novembre prochain, dans le cadre du festival Charabia, dont Radio Primitive est partenaire, vous allez vous produire avec le Ça et le Ça, 12 poètes russes contemporains de la Révolution d'Octobre, dont vous avez mis en musique et en images les textes. Mais pour commencer cette interview, qui est Christian Olivier? Vous ne voulez pas vous considérer comme un poète? Est-ce que vous êtes un chanteur qui joue avec les mots?
Oui, c'est ça. Je dirais que je me définis pas comme poète parce que c'est pas à moi de le définir, ça, on va dire. C'est vrai que moi, depuis le départ, j'ai des matériaux qui sont de la musique, des notes de musique, qui sont de l'image, qui sont de l'écriture et puis de la littérature, bien sûr. Donc tout ça, moi, pour moi, quand j'ai démarré, on va dire que j'ai un peu démarré tout ça en même temps. Donc voilà, à la fois. Je travaille ça sur avec mes créations, avec mes textes que je mets en musique aussi, les images que je travaille beaucoup avec le collectif Les Chapelets. Et puis depuis toujours, que ce soit avec Tête Raide ou dans mes albums solo, il y a toujours eu un invité de la poésie ou de la littérature dans chaque album pratiquement. Donc c'est vrai que depuis le départ, en dehors des textes que je peux écrire moi de mon côté, j'ai toujours travaillé avec aussi avec des textes d'auteurs et d'autrices, quoi.
Est-ce qu'on peut considérer le Ça et le Ça, donc cet album et la proposition que vous allez faire au manège qui en découle, comme une continuité de votre travail, une suite logique, où il y a eu vraiment une réflexion sur la poésie d'une part, et puis aussi sur les auteurs et autrices russes d'autre part?
C'est vrai que ça a été plus le moment, on va dire, puisque encore une fois, la continuité, pour moi, la transmission, on va dire, de cette poésie, de mettre en musique de la poésie, c'est quelque chose qui est, à savoir que c'est quand même toujours un petit exercice, enfin, dans le sens où, dans la poésie, il y a déjà de la musique. Donc, voilà, se mettre un poème en musique, ça peut être bien, et puis ça peut ne pas être bien non plus, parce qu'il y a déjà cette musique dans le texte, donc faut être très prudent, très humble, quand on travaille là-dessus. Ensuite, par rapport aux Russes, c'est vrai que très tôt, moi, j'ai lu des auteurs, autrices russes. J'ai démarré il y a peut-être plus de 30 ans. J'étais tombé sur Mayakovsky, ensuite sur Alexandre Blok. J'avais travaillé sur un texte qui s'appelle Les Douze. Ensuite, sur une pièce de théâtre de Marina Tsvetaeva, où j'avais composé la musique. Et voilà, ça a été le moment, moi. Je me suis intéressé aux autres auteurs et autrices de cette période. Et voilà, pour moi, ça a été le moment de dire, voilà, on va rassembler, parce qu'il y a une histoire commune avec tous ces gens pendant cette période-là, qui est très, très forte. Et j'ai été épaulé par un monsieur qui s'appelle André Markovitch, qui est voilà, le plus grand traducteur aujourd'hui, qui a retraduit tout Dostoïevski il n'y a pas longtemps, Tchekhov, etc. Et qui m'a aussi, moi, amené à traduire deux textes du russe au français, ne parlant pas russe au départ, quoi. Voilà. Donc c'est une aventure aussi, quoi.
Qu'est-ce qui vous a fasciné dans les auteurs russes? C'est l'époque, enfin l'époque avec laquelle ils sont contemporains, c'est-à-dire cette période de révolution, ou est-ce que c'est le fait qu'on sente une vie intense, et quelle que soit la destinée de chacun, une urgence, un engagement qui prend d'ailleurs des formes très différentes selon les différentes vies? C'est quoi? C'est cette intensité, en fait, qui vous a captivé?
Ouais,
assez.
C'est vrai que dans les textes, quand on lit ces textes, alors après, on va reparler de bien entendu des traductions, puisque la traduction, quand on travaille sur des textes d'une autre langue, il y a la traduction qui intervient, et la traduction est quelque chose de fondamental pour arriver à, voilà, surtout en poésie aussi. Donc c'est vrai que ces textes-là, pour moi, c'est quelque chose tous ces auteurs, il y a quelque chose de très physique, de très viscéral, de très, sans aller au bout, on va dire, de la poésie, de qu'est-ce que c'est que la poésie, on va dire, quoi. Leur chemin les a menés jusqu'au bout, on va dire, par rapport à ça. C'est effectivement cet engagement sans limite, surtout, bien entendu, que le contenu, il est sur tout ce qui se passe à ce moment-là, mais ils se sont engagés sur la culture, j'ai envie de dire, puisqu'à ce moment-là, en dehors de la poésie, tout ce mouvement, en tout cas, dans la peinture, dans le théâtre, donc c'est un mouvement culturel général aussi à ce moment-là.
On ressent aussi, pour la plupart des textes choisis, une notion d'urgence. Et d'ailleurs, c'est très étrange parce qu'il y a des textes qui sont... les chansons prennent leur temps dans le déroulé, dans la musicalité qui a été mise derrière. Et malgré tout, on sent une urgence terrible, alors que c'est des textes qui ont plus de 100 ans. Ça aussi, c'est quelque chose sur lequel vous avez eu envie, avec lequel vous avez eu envie de jouer, une matière que vous avez voulu...
C'est vrai que... Quand j'ai démarré le travail à mettre en musique ces textes-là, pour moi, ça devait, d'une certaine manière, sonner contemporain, quoi. Voilà. L'idée première était de faire entendre ces textes comme si ils avaient été écrits aujourd'hui, quoi. Pour moi, c'était ça l'important. C'était pas de replonger dans la musique entre guillemets traditionnelle ou quoi. L'idée, c'était vraiment les gens qui écouterait cet album sans savoir qui a écrit les textes. L'idée, c'était vraiment de pouvoir se dire que ces textes ont été écrits là, dans le présent, actuellement. Et c'est vrai que qu'on est en train de vivre aujourd'hui de par le monde d'une manière générale. Il y a cette résonance aujourd'hui très forte, énorme, de ces textes-là. C'est ça qui pour moi, en tout cas, l'importance en tout cas dans le travail était là-dessus aussi, quoi.
Il y a certains textes, je pense à « Dans le brasier de neige » de Bloch, où on sent la musicalité, même s'il n'y avait pas de mise en musique. Rien qu'en le lisant, dans sa version française, je ne maîtrise pas le russe, mais vraiment on sent la musicalité. D'autres textes où on se dit que ça a dû être beaucoup plus compliqué en fait, de penser la musique derrière. Comment vous avez travaillé pour cela ? D'ailleurs, est-ce que justement tout le travail de traduction a été aussi dirigé vers cette finalité en musique? Comment vous avez articulé ce boulot-là?
Déjà, effectivement, sur la traduction, pour moi, il y a des textes qui étaient évidents que j'étais tombé sur des bonnes traductions, on va dire. Et il y a eu plusieurs textes où je savais que le contenu, c'était le texte que je voulais mettre en musique, mais je n'avais pas la bonne traduction. Et c'est là où l'intervention d'André Markovitch a été fondamentale et importante, dans le sens où j'avais déjà cette notion de traduction, parce que étant tombé sur un Dostoïevski il y a plus de 30 ans avec deux traductions différentes dans une librairie, pour moi, en lisant la première page, j'avais deux histoires pratiquement différentes. Donc c'est vrai que cette histoire de traduction est vraiment vraiment fondamentale. Et avec André Markovitch, lui m'a fait découvrir aussi quelques auteurs, comme par exemple Daniel Arndt, que je ne connaissais pas, qui est un auteur magnifique. Et donc, pour mettre en musique ensuite tout ça, si on prend par exemple Voix et chant de la rue de Klebnikov, qui est quelque chose de pratiquement une nouvelle langue, puisque c'était son envie, son désir, de créer une nouvelle langue. Et c'est vrai que là, on est... À la fois, on navigue entre la mélodie et le rythme, puisqu'effectivement, quand on dit dans le brasier de neige, par exemple, il y a une musicalité déjà dans le texte au départ, mais il y a aussi un rythme. Et à ce moment-là, il y a pas mal d'auteurs aussi qui ont travaillé là-dessus. Je pense à Daniel Arndt aussi. Le rythme, la mélodie et le sens, bien sûr, puisque Daniel Arndt, dont j'ai repris le titre Le Ça et Le Ça, où on travaille sur aussi l'absurde. Donc tout ça, c'est du jeu aussi, à un moment donné, il y a une part ludique aussi dedans, quoi.
Oh, ce mal. Démasqué il y a longtemps, il m'est parfaitement égal où me trouver parfaitement. Seul sur quelques pavés je traîne, cabas au bras jusque chez moi, vers la maison ou plutôt caserne, qui ne sait pas qu'elle est à moi. Il m'est égal à qui paraître, lion en cage devant quel champ, et de quel milieu humain être, expulsé immanquablement. En moi-même, dans l'isoloir du cœur, mal vivre, qu'importe où, où m'avilir, moi, ours polaire, sans sa banquise, je m'en fous. Maternelle au son lacté, je m'en défie. Il m'est indifférent en quelle langue être incomprise. Et de qui? Du lecteur du glouton de tonnes de presse. Abreuvoir de potin, 20e siècle, c'est ton homme. Avant tout siècle, moi je vins. Bûche abandonnée sur les dalles, d'une allée durcie de partout. Tout m'est égal, les gens se valent, et peut-être par-dessus tout. Égal, ce qui fut le plus cher de moi ont disparu d'un coup. Tout signe, date et repère, une amenée, on ne sait où.
L'intégralité de l'album et qu'on peut le lire aussi parallèlement. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a de la lumière dans ces textes ou est-ce que ça reste quand même fort sombre? Alors peut-être aussi fort sombre parce que nous, on a la finalité de leur histoire personnelle et puis la finalité du contexte historique. Mais est-ce que vous, vous aviez envie de transmettre de l'espoir, de l'envie de lutte?
Sur l'aspect tragique par rapport à la fois à leur écriture, par rapport à leur chemin. Moi, j'ai toujours effectivement travaillé autour un petit peu de ces textes-là qui ont cette force-là, cette portée-là. Je citais un texte de Steve Dagerman que j'ai mis en musique avec Ted Red, Notre besoin de consolation est impossible à rassasier. C'est un texte magnifique, c'est un texte très très fort, très 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 dense, très chargé, on va dire. Mais voilà, il y a toujours cette lumière pour moi. Ces gens-là, de toute façon, si la poésie est une lumière, de toute façon, et dans toutes les failles, dans toutes les crevasses qu'il peut y avoir, c'est toujours une fenêtre qui s'ouvre, c'est toujours une lumière qui est là. Donc c'est vrai que la poésie est ça, et cette forme de lumière, quoi.
Le 22 novembre, il y aura certes le concert, mais il est question d'image aussi. Vous pouvez nous en parler un peu?
Ben ça, j'ai travaillé depuis le départ du projet, puisque le projet a démarré par un bouquin, donc qui est sorti il y a 2 ans et demi maintenant, je crois, qui s'appelle La Révolution au cœur. Et suite à ce bouquin, tout ça c'était déjà prévu dans ma tête, mais il y avait d'abord la sortie du livre, ensuite la mise en musique des textes, et puis ensuite le spectacle. Et c'est vrai que dans le spectacle, tout de suite, il y a eu cette idée d'image, moi, très forte. Donc j'ai travaillé à la fois sur des images d'archives, à la fois des images graphiques, sur les images des chapelets, et où j'ai animé ces images-là. Donc il y a pas mal de typographies, il y a pas mal d'images, de matières aussi, qui sont pas forcément, qui sont plutôt abstraites à des moments, mais où on est baigné dans une espèce d'ambiance, entre à la fois ce qui se passe musicalement avec les musiciens et musiciennes qui sont avec moi, mais on est vraiment baigné dans une matière, on va dire, parce que voilà, c'est comme ça que je l'appellerais, c'est plutôt une matière, et donc on est plongé dedans avec aussi une série de photos contemporaines qui nous rappellent voilà cet écart de temps qu'il y a pu y avoir entre ces textes écrits il y a un peu plus d'un siècle maintenant et aujourd'hui, quoi.
J'ai lu, alors vous m'arrêtez si je me trompe, hein, qu'il y avait eu des endroits où vous avez eu l'interdiction de jouer certains des poètes à cause des événements actuels, alors que pour ne citer que Marina Tsvetaeva, Boris Pasternak avaient vu leurs œuvres rejetées par les autorités soviétiques en leur temps, rejetées des auteurs russes eux-mêmes qui furent rejetés par leur pays. On arrive à des situations kafkaïennes.
Ben, complètement, c'est-à-dire que voilà, on va dire que pour aller très vite, c'est de l'amalgame, quoi. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, même en France, il y a eu quelques endroits où j'avais proposé le projet. Et dès que les gens ont su que c'était des textes russes, il n'en était pas question aujourd'hui, quoi. Voilà, ça ne pouvait pas passer, quoi. Bon, c'est pas partout, hein, mais il y a eu quelques endroits comme ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ne pas proposer ces textes-là à entendre, c'est quelque chose qui est purement scandaleux, puisque, encore une fois, ces gens-là ont tous combattu le pouvoir en place à ce moment-là. Ils se sont tous, ils ont tous fini tragiquement, souvent par rapport à ça. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, faire entendre leur voix, faire résonner leurs mots aujourd'hui, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Et pour ces gens qui comprennent pas cette chose-là, je dirais que je pense que l'amalgame, ils doivent le faire sur d'autres sujets aussi. Donc voilà, tant pis pour eux. J'ai envie de dire que, enfin, tant pis, c'est pas pour eux, c'est pour le public et que c'est gênant et que c'est. Mais je dirais que partout, en tout cas, où on peut le faire, et il y a beaucoup d'endroits où ça se fait, bien entendu. On est là pour faire entendre leur voix, quoi.
Pour terminer cette interview, on va bien sûr écouter un des morceaux et j'aimerais que vous en choisissiez un et que vous nous le présentiez. Et pourquoi la raison de ce choix?
Ah, bah, il y en aurait plusieurs, hein, mais...
Alors, on en écoutera plusieurs à l'antenne, on parle bien.
Il y en aura plusieurs, mais on va prendre pour la petite anecdote, effectivement, le concert à la gare de Ossip Mandelstam. C'est vrai que ce texte-là... c'était une des traductions où je n'avais pas trouvé de bonne traduction. Et je savais que c'était le bon texte pour moi de Ossip Mandelstam, parce que ça, c'est plus quelque chose de personnel. Mais en général, quand j'ouvre un bouquin de poésie, ça va être valable pour Boris Vian, pour Desnos, pour d'autres, où je vais tomber sur un texte. Et pour moi, c'est ça. C'est ce texte-là que je veux dire. Sur Rimbaud, ça va être Les Corbeaux, voilà. Et Mandelstam, c'est ce texte-là. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas la bonne traduction pour moi. Ça, c'est encore personnel, bien sûr, mais... Et c'est là pour la petite anecdote où je me suis retrouvé, ne parlant pas russe, à traduire ce texte-là, ce qui fait que je chante la traduction, ma traduction de ce texte-là, épaulé par Markovitch, bien sûr. Et voilà, c'est quelque chose de très émouvant en même temps, puisque à la fois le texte russe de Mandelstam au départ et cette traduction que j'ai pu faire, c'est quelque chose qui pour moi est très émouvant, ce qui fait qu'à chaque fois que je j'interprète cette chanson-là, c'est un moment très fort.
Eh bien, merci beaucoup.
Avec plaisir.
La musique.